Suite aux révoltes indépendantistes kanak des années 1980 que nous avons vues dans ce film, cette île du Pacifique est engagée, donc la Kanaky Nouvelle-Calédonie est engagée dans un processus de décolonisation progressif, entériné par les accords de Matignon en 1988 et de Nouméa en 1998. Ces deux accords ont d'une part mis en œuvre des politiques de rééquilibrage économique entre les populations du territoire, soit entre les Kanaks, la population autochtone, 40% de la population, les Caldoches, descendants des colons européens qui forment 15% de la population, les Français métropolitains, 13% de la population, les personnes originaires de l'Océanie, donc les migrants des îles alentours, 11% de la population, de l'ancienne Indochine, 3% de la population, et ceux se définissant comme métis ou calédoniens, donc une catégorie qui est apparue récemment avec 16% de la population. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que durant les mouvements indépendantistes kanak, le Front de libération kanak, Libération nationale kanak socialiste, le FLNKS, a vu en fait comment les indépendances africaines ont été des indépendances, on va dire, à moitié réussies parce qu'ils sont restés économiquement extrêmement dépendants des métropoles. Donc l'idée des kanaks indépendantistes, c'est de demander d'abord à l'État français un processus de rééquilibrage économique pour que les Kanaks puissent avoir du pouvoir sur leur propre territoire pour pouvoir devenir réellement indépendants une fois que l'indépendance politique sera faite. Donc ils demandent par exemple des politiques de formation des Kanaks. Donc il y a le développement des écoles locales avec des politiques de formation de cadres Kanaks pour qu'il y ait des gens qui puissent assumer en fait la direction du pays une fois qu'il sera décolonisé. Il y a aussi des politiques de développement des territoires ruraux kanaks, notamment par exemple avec la mise en eau potable de l'ensemble des villages kanaks qui aura lieu dans les années 90-2000. Il y a aussi des politiques de reconnaissance culturelle, avec la création d'un centre culturel kanak, avec de l'association, enfin, excusez-moi, des subventions pour les associations et qui développent les arts kanaks, pour les artistes kanaks, pour qu'il y ait vraiment reconnaissance de cette culture. Il y a aussi la rétrocession de certaines terres, c'est-à-dire que l'État français va racheter certaines terres et les redonner aux Kanaks, bon, pas beaucoup, mais tout de même quelques-unes. Il y a aussi un énorme projet indépendantiste qui est de créer une mine nationalisée dans le Nord, donc qui est aujourd'hui en route, qui permet en fait aux politiques locales d'avoir, au peuple et aux politiques locales d'avoir la mainmise sur au moins une des plus grandes ressources du pays. Donc ça, c'est principalement l'accord de Matignon qui a mis ça en place, parce que la France avait vraiment peur d'une nouvelle guerre de décolonisation. Et donc, sous cette pression, les Kanaks ont pu obtenir ces politiques-là. D'autre part, l'accord de Nouméa, donc le second accord en 1998, prévoit l'autonomisation de la plupart des institutions locales, comme l'enseignement, la santé, le commerce, etc., et la tenue d'un référendum d'ici 2018 sur l'éventuelle indépendance politique du pays. Donc là, sur l'armée, la monnaie, la justice, etc., sur ce qu'on appelle les compétences régaliennes de l'État. En conclusion, l'anthropologie prend de nouveaux objets d'études. Par exemple, ici, la colonisation et la décolonisation des Kanaks, qui permet de prendre du recul, par exemple, sur des catégories que beaucoup pensent traditionnelles, enfin, en tout cas issues de la culture Kanak, telles celles de petits chefs, de grands chefs ou de tribus. Si on ne fait pas l'histoire de la colonisation, on peut croire qu'en fait, c'est une émanation de la tradition Kanak, alors qu'en fait, c'est le fruit de l'histoire coloniale. Il s'agit de reconnaître d'une part la réalité culturelle de chaque peuple, tout en ayant bien conscience que la culture est toujours un processus à remettre dans un contexte. C'est-à-dire, il n'y a pas, en fait, si on reconnaît la spécificité culturelle d'un pays, il faut bien comprendre que toutes les cultures changent tout le temps et qu'il faut bien comprendre que telle qu'elle s'exprime, ça dépend du contexte économique, politique dans lequel on se trouve, que l'on soit un Français ou, je ne sais pas, un Bororo de la Nouvelle-Guinée. L'anthropologie améliore aussi sa méthode, la connaissance intime d'une population n'étant plus suffisante pour faire de grandes généralités sur comment telle ou telle ethnie pense. Elle associe de plus en plus des méthodes et des chercheurs venant d'autres disciplines aussi. Enfin, l'anthropologie prend de nouveaux terrains, étudiant aussi bien les couloirs de l'université que le rituel de cuisson du serpent dans un village d'Océanie. On voit donc une diversification des endroits où l'on travaille. Je vous remercie de votre attention.